Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus 88.3 FM, nous sommes en compagnie de Ctrl Z dont nous venons d'écouter un extrait de l'album qui sortira en 2018. Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices ?
Bonjour, merci à toi de me recevoir. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer à travers un nouveau média. Je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Pour que les musées exposent des peintures non finito ou des esquisses, c'est bien qu'on doit pouvoir y trouver un certain intérêt. En musique, on ne donne pas de concerts d'ébauches ou de brouillons, même si, à partir d'un certain niveau de notoriété du compositeur, ces éventuels brouillons prennent de la valeur sur le marché des manuscrits, au même titre qu'un autographe ou un facsimilé. Mais les esquisses peuvent aussi prendre une valeur musicologique, parce qu'en affichant une sorte de compte-rendu d'étape d'un travail de composition, elles peuvent renseigner sur l'élaboration et donner des pistes d'interprétation potentiellement très différentes des intentions du compositeur, du moins telles qu'il a bien voulu les exprimer à l'occasion d'une lettre, d'un entretien ou d'une note d'intention. Pour embrasser différentes manières de tirer profit musicologique des esquisses, on peut lire Esquisse musicale, enjeu et approche du 19e au 20e siècle publié par les éditions Brépol sous la direction de François Delescluze, mais on peut aussi écouter cette émission enregistrée au Salon Marguerite Long de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, où nous accueillons François Delescluze, aux côtés de Fabien Guillou et Anastasia Knecht, mais encore en léger différé, le musicologue Paolo Delmoline, autant de voix qui permettront de tirer des ponts entre les esquisses de Camille Saint-Saëns et Gustave Mahler, ou encore, pour commencer, de Claude Debussy. Bonjour François Delescluze.
Bonjour.
Nous sommes donc, comme je le disais, réunis au Salon Marguerite Long, un peu là où le travail collectif a commencé, puisque c'est à l'abbaye de Royaumont, qui s'occupe aussi de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, que ce chantier sur les esquisses musicales a été lancé. Mais quand on cherche un point de départ, on peut forcément remonter encore un peu avant. Et avant que les musicologues ne s'emparent de la question, on peut dire que la génétique littéraire avait un peu ouvert le débat avec ce qu'on appelle les sketch studies.
Oui, tout à fait. Les études des esquisses musicales ont commencé dès le 19e siècle, en réalité, avec l'intérêt très nourri pour les esquisses de Beethoven en particulier, qui ont vraiment lancé les travaux musicologiques sur la question. Et donc, c'est finalement depuis un certain temps qu'on s'intéresse à ce type de traces du travail créateur en musique et en littérature. Mais c'est seulement depuis à peu près les années 70 qu'il y a eu un retour de ce type d'études, en particulier aux États-Unis avec les sketch studies, et puis en France en particulier avec ce qu'on appelle la critique génétique littéraire de ce côté-là, où on s'est vraiment intéressé au brouillon des écrivains.
Ça veut dire qu'on a fait marcher avec des facsimilés et des ventes aux enchères avant d'en faire des colloques de musicologie ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur marchande de l'esquisse musicale ou du brouillon littéraire reflète en quelque sorte l'intérêt que l'on va pouvoir attribuer à toutes les productions de ces créateurs, qu'il s'agisse des écrivains ou des compositeurs, c'est-à-dire une valeur marchande qui est également une valeur qui est celle du travail fourni par ces auteurs.
Alors parmi les apports de la génétique littéraire, il y a ce que vous appelez la rupture avec la téléologie éditoriale. C'est quoi la téléologie éditoriale qui semble donc être destituée par tous ces brouillons, ces ébauches, ces esquisses ?
Alors, c'est-à-dire que la critique génétique part du principe que plutôt que de se diriger vers un texte fini, un texte clos finalement, qui est celui que propose une édition critique qui va jusqu'au bout de ce processus d'établissement du texte, eh bien, il est intéressant de se tourner vers l'ensemble des documents qu'on appelle avant-textuels, avant la fixation du texte, qui nous renseignent non pas sur le texte définitif, mais sur la manière dont il advient, donc sur l'histoire de la constitution de ce texte.
Alors, avec Thomas Lacote, vous avez travaillé sur une esquisse du prélude à l'après-midi d'un faune, dont on n'a entendu que quelques mesures tout à l'heure. Qu'est-ce que renseignent les esquisses quant à la forme que l'on ne pourrait peut-être pas déceler si on regardait la partition dans son état achevé ?
Alors, je vais répondre un tout petit peu à côté, puisque cette ébauche, cette esquisse du prélude à l'après-midi d'un faune est un peu particulière. Il s'agit de deux fragments d'un manuscrit qui a probablement été une ébauche continue, c'est-à-dire un manuscrit dont nous avons seulement deux fragments, deux esquisses que nous avons étudiées avec Thomas Lacote, mais qui font partie d'un manuscrit plus vaste dont les autres parties sont perdues. Il s'agit d'une ébauche continue, un type de manuscrit qu'on trouve chez un certain nombre de compositeurs. Le concept est même apparu plutôt dans la critique génétique, dans les études beethoveniennes, ce qu'on appelle un continuity draft, c'est-à-dire une ébauche continue sur laquelle le compositeur note l'ensemble de la forme qu'il est en train de faire naître. Simplement, il s'agit aussi d'un manuscrit sur lequel il y a encore beaucoup de doutes qui apparaissent. Il ne s'agit pas de la version définitive qui sera donnée au graveur ensuite.
Mais ça veut dire que l'accès à ce document donne aussi accès à ce qui serait une traçabilité des doutes ?
Tout à fait. C'est ce qu'enregistre en particulier la rature. L'épistémologie qui autour de ces esquisses tourne autour de la rature, d'une véritable heuristique de la rature, c'est-à-dire ce que les ratures peuvent nous dire des étapes de la genèse de l'œuvre, ce qu'elles peuvent nous dire, notamment de ce qu'on peut appeler des différents mouvements génétiques, suppression, ajout, déplacement.
Alors, vous dites que dans le cas de Bussy, il y a une espèce de rivalité entre la musicologie française, qui est de tradition très analytique, et la musicologie américaine, qui se sont pas mal divisées quant au découpage des formes des partitions de Debussy, justement parce que les Américains se seraient plutôt intéressés à ces questions d'ébauche, par exemple.
Alors, je dirais plutôt que l'histoire de la réception du prélude à l'après-midi d'un faune est d'une richesse assez incroyable, puisque tous les analystes, peu ou prou, se sont essayés à l'analyse de cette œuvre, tout en reconnaissant par ailleurs son caractère inanalysable, qui fait partie dès le début, de la réception de cette œuvre. Et donc, d'un côté, on a eu une réception par des compositeurs post-sériels qui est assez importante en France, et d'autre part, une réception analytique qui a utilisé d'autres outils du côté nord-américain. Ce qui est frappant avec l'approche génétique, qui avait été encore relativement peu utilisée concernant cette partition, tout simplement parce qu'on n'en avait pas de traces suffisantes, c'est qu'elle apporte une manière de rouvrir le dossier, en quelque sorte. Puisque on a certes ces deux esquisses dont je parlais, mais l'autre source qu'on avait concernant cette œuvre, c'est ce qu'on appelle la particelle qui sert à l'orchestration. Et donc ce manuscrit est très intéressant pour documenter l'orchestration, mais ne nous dit absolument pas comment l'œuvre a été composée en ce qui concerne les mélodies, l'harmonie et la conception de la forme.
Boulez écrivait « De même que la poésie moderne prend sûrement racine dans certains poèmes de Baudelaire, on est fondé à dire que la musique moderne s'éveille à l'après-midi d'un faune. » Alors au lieu de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire de cette phrase de Boulez, je voudrais souligner que vous affirmez avec Thomas Lacote que cette phrase est emblématique de la propension à faire de l'œuvre un terminus à quo. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire de l'œuvre un terminus à quo ? Enfin, qu'est-ce qu'un terminus à quo pour commencer ?
Alors le terminus à quo, dans la manière dont Boulez l'utilise ici, c'est ce moment de rupture que constitue pour lui le prélude à l'après-midi d'un faune.
Qu'il y a un avant-après, donc,
voilà,
et qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Voilà, le sens qu'il utilise, c'est celui d'un point de bascule historique qui correspond à la manière dont on a reçu principalement le prélude à l'après-midi d'un faune, un événement historique où il y a la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est un point utilisé par les historiens qu'ils soulignent ici dans cette expression.
C'est une manière de constituer une œuvre comme une espèce de pivot dans la lecture de l'histoire, mais vous dites alors que justement faire cette génétique des œuvres vous permet d'un petit peu effriter cette logique de pivot ou
Alors, disons que ce que les esquisses nous permettent de montrer, c'est que Debussy est un héritier du 19e siècle, bien entendu, et que les techniques de composition qu'on peut analyser grâce à l'examen de ses esquisses, montre à quel point il a besoin de ces outils qu'il a appris au conservatoire, qu'il a appris auprès de ses maîtres, par exemple Franck, Wagner ou d'autres. Et ce qui est frappant, c'est que grâce à l'analyse des ratures dont nous parlions tout à l'heure, on peut voir que Debussy va effacer très, très souvent les traces de ce travail et va effacer en particulier les traces de ce qui est trop lié à un héritage.
Les scories du XIXe siècle.
Voilà, les scories du XIXe siècle, les choses dont il essaye de se débarrasser pour produire la musique moderne à laquelle Boulez se réfère.
D'accord, donc ce n'est pas que l'inauguration du XXe siècle, c'est quand même aussi un héritage. Quoi.
C'est aussi cet héritage-là, oui.
Bonjour Fabien Guillou.
Bonjour.
Vous vous intéressez aux esquisses de Camille Saint-Saëns, qui lui ne s'y intéressait pas.
Non, c'est vrai que Saint-Saëns n'a pas, contrairement à d'autres compositeurs, n'a pas beaucoup parlé de son propre travail de création. Il avait une vision, une conception très biologiste des choses, c'est-à-dire qu'il disait « je fais de la musique comme un pommier fait des pommes », c'est-à-dire que c'est dans sa nature première de composer, il compose depuis qu'il est tout petit, et donc il ne voyait pas quels pouvaient être les processus, je pense que ça ne l'intéressait pas de manière profonde.
Mais vous avez l'air de dire dans votre texte, dans le livre Esquisse musicale, peut-être de façon un poil plus perfide, que c'est parce qu'il voulait se faire passer pour un génie qu'il effaçait toute trace de tâtonnement.
Oui, il y a surtout une part de coquetterie de la part de Saint-Saëns, de pudeur aussi, parce que c'est quelqu'un qui parle très très peu de lui. Il parle beaucoup, parce qu'il raconte souvent ses souvenirs, ses mémoires, mais il ne parle très peu de ses sentiments ou de ses impressions. Mais c'est vrai que Saint-Saëns appartient à cette... D'abord, on oublie que Saint-Saëns, de son vivant, était un compositeur qui était adulé par le public, ou détesté, suivant évidemment comment on se positionnait par rapport au personnage ou à son œuvre. Mais en tout cas, c'était une personnalité importante. Très conscient aussi de l'émergence aussi de ce rapport à l'esquisse ou au manuscrit, comme on en parlait tout à l'heure, comme un objet marchand qui avait de la valeur, mais qui était aussi une trace du génie créateur. Et donc ça, je pense que Saint-Saëns avait un peu de mal avec cette dimension-là, parce que lui-même pratiquait le travail de lecture de l'esquisse, puisqu'il est aussi philologue, il a édité les œuvres de Gluck, les œuvres de Rameau en France. Donc il allait régulièrement en bibliothèque regarder les manuscrits des autres compositeurs. Et donc je pense qu'il avait aussi un rapport assez pragmatique et assez analytique par rapport à ce genre de document, pour ne pas lui-même s'en faire une sorte d'importance ou de gloriole.
On va écouter les premières mesures de son poème symphonique Le Rouet d'Omphale et parler des ébauches et brouillons et esquisses qu'on a quand même à disposition de Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Seiji Ozawa à la tête de l'Orchestre National de France dans le début du Rouet d'Omphale de Camille Saint-Saëns. Avant d'en commenter les esquisses, Fabien Guillou, dire où on trouve ces esquisses de Camille Saint-Saëns, lui qui avait tendance plutôt à les détruire. Simplement, il honorait les amis qui voulaient les collectionner, comme Charles Malherbe par exemple.
Alors il y a trois grands cas de figure dans le cas de Saint-Saëns. Il y a d'abord la partie des esquisses de jeunesse, de sa période d'enfance et d'adolescence, qui ont été collectionnées par sa mère, qui devait les conserver à titre de piété filiale sans doute, et que Saint-Saëns a conservé jusqu'à la fin de sa vie dans ses archives personnelles, qui sont arrivées donc à la Bibliothèque nationale de France au moment du legs des manuscrits de Saint-Saëns, à la Bibliothèque du Conservatoire d'abord, pardon, de Paris, et ensuite à la Bibliothèque nationale de France. La deuxième série vient précisément de Charles Malherbe, qui était donc archiviste à la Bibliothèque de l'Opéra de Paris, qui était un grand ami de Saint-Saëns. Ils étaient très proches, puisque Charles Malherbe était le secrétaire de rédaction des éditions des œuvres complètes de Jean-Philippe Rameau, que Saint-Saëns dirigeait. Donc ils étaient en relation très très étroite.
Il les avait même préfacés.
Ouais. Oui, il les avait même préfacés pour un certain nombre de volumes. Et voilà, Malherbe, qui était aussi collectionneur à côté, qui a une immense collection de manuscrits, autographes, de compositeurs. Il a voulu constituer une sorte de panthéon, un petit peu des grandes figures des siècles passés, et aussi des compositeurs contemporains. Donc de temps en temps, il disait à Saint-Saëns, mais ne jetez pas vos brouillons, donnez-les-moi, ça m'intéresse. Donc comme ça, il a pu récupérer un ensemble de manuscrits que Saint-Saëns lui a donné. Et puis la troisième grande collection, qui est aujourd'hui conservée à Dieppe, nous vient de son secrétaire, Jean Bonnereau, qui lui faisait vraiment les poubelles. C'est-à-dire qu'il récupérait tout ce que Saint-Saëns pouvait jeter à droite à gauche, presque de manière un peu comme des reliques. Hein. Il avait une admiration sans borne pour la personne au service duquel il était. Et donc, à sa mort, sa veuve de Jean Bonnereau a légué l'ensemble de ces documents que Bonnereau avait collectés à la bibliothèque de la ville de Dieppe.
Charles Malherbe, vous le citez dans un mot de remerciement qu'il adresse à Saint-Saëns. Il lui dit « Vous dites qu'il vous faut peu de coquetterie pour vous montrer ainsi en déshabillé, à seule fin de m'être agréable. Laissez-moi vous répondre que le nu académique est toujours beau à voir et vos esquisses sont merveilleuses. » Ça veut dire que ce Charles Malherbe, en fait, préférait les chantiers en construction que le bâti abouti ?
Oui, je pense que Malherbe fait partie de ces collectionneurs érudits de la seconde moitié du XIXe siècle qui contribue à faire en sorte que les brouillons, les esquisses des compositeurs deviennent un objet d'étude. Hein. C'est la même période où on commence à regarder les esquisses de Beethoven, donc dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Et Malherbe s'intéresse à ce qui l'intéresse, c'est vraiment la notion de génie à l'œuvre. Il est fasciné par le premier geste qui est posé, la première ébauche, dans lequel on peut déjà déceler, repérer, reconnaître le thème ou l'enchaînement d'accords qui plus tard va se retrouver dans l'œuvre définitive.
Ce que vous documentez aussi, c'est que Saint-Saëns aimait le beau papier et que ce fétichisme du papier, même s'il l'arrête à quand même jeter ses ébauches là où d'autres dans son entourage voudront garder ses ébauches, il est quand même tenace et il participe du soin qu'il met à lui-même écrire ses partitions.
Oui et non. Je pense qu'il y a une dimension qui est très pragmatique, en fait, et qu'on oublie souvent, c'est qu'un compositeur, il a besoin de papier, il a besoin de plumes, il a besoin d'encre, il a besoin de tout un outillage d'écriture, ce que nous, on utilise en termes de bibliographie matérielle. Donc on peut étudier la question des encres, des types de crayons, etc., qu'il utilisait. Et c'est vrai que chez Saint-Saëns, dans la correspondance, c'est un objet de préoccupation régulière, parce que Saint-Saëns est toujours aussi en mouvement, il est toujours en voyage, donc il n'a jamais le bon papier sous la main. Quand il est en Espagne ou en Afrique du Nord, il ne trouve pas le bon papier pour écrire, le papier est trop épais, ou il est trop rêche, ou il n'a pas la bonne encre. Donc on a beaucoup de... Mais je pense que d'autres compositeurs, on retrouve ce souci aussi du beau papier qui peut aller jusqu'à l'objet de calligraphier son manuscrit chez certains compositeurs qui est très présent. Je pense notamment à Debussy. Il y a un aspect esthétique du manuscrit que l'on peut retrouver.
C'est-à-dire un souci de faire une belle partition plus encore que de faire de la belle musique ?
Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y a un souci de calligraphie, mais un souci de précision et de netteté pour que le graveur fasse bien son travail derrière.
Donc il écrit à Durand, son éditeur, « Ma partition est d'une calligraphie superbe, à défaut d'autres qualités, elle aura toujours celle-là. »
Oui, celle-là. C'est une forme aussi d'humour et d'ironie que m'a dit Saint-Saëns. Mais je ne pense pas qu'il accordait plus d'intérêt que ça à la beauté esthétique du manuscrit. D'ailleurs, ces manuscrits, il ne les conserve pas. Il est remis à son éditeur et...
Et alors, vous notez qu'il n'a pas toujours la même expression pour parler de ses esquisses. Il va parler de griffonnage préparatoire à propos de Frinet en 1893 et de linéament d'esquisse à propos de la muse et le poète en 1910.
Oui, je crois que ça vient aussi du fait que le vocabulaire utilisé par les musiciens au XIXe siècle n'est pas du tout celui que nous utilisons aujourd'hui.
Oui, mais ça peut vouloir dire qu'il y a dans son idée, en plus il était évolutionniste, oui, lecteur de Darwin, tout des esquisses qui seraient plus primitives que d'autres.
Tout à fait. Alors, en général, il y a deux niveaux d'esquisses pour lui. Il y a ce qu'il appelle les linéaments ou les griffonnages, c'est-à-dire vraiment le premier jet. Et ensuite, il y a l'esquisse. Ce qu'il appelle esquisse, c'est plutôt le document où il va organiser de manière à peu près cohérente sur une page différents éléments. Sous forme de petites clausules, ça peut être un élément de mélodie, un espèce de plan schématique par exemple, ou de plan formel. Donc il y a déjà une première distinction sur deux niveaux d'esquisses chez Saint-Saëns.
Et donc dans le cas du Rouet d'Omphale, dont on a écouté le début, là on a quand même des esquisses qui sont très indicatives quant à la forme et le plan thématique, comme vous dites.
Oui, alors on a la chance pour le Rouet d'Omphale de posséder donc cette esquisse qu'utilise Saint-Saëns, et on le voit que, il ne faut pas oublier que Saint-Saëns a deux éléments qu'il faut rappeler pour Saint-Saëns. D'abord, c'est quelqu'un qui était hypermnésique, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il entendait une musique une fois, il était capable de la rejouer plusieurs années après sans problème. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Et ensuite, c'est quelqu'un qui pratique l'improvisation. C'est un pianiste et un organiste, avant même d'être un compositeur, puisqu'il a passé sa vie à jouer de ces deux instruments. Et il travaille, son travail de compositeur est assez proche de ce que les organistes pratiquaient, ou pratiquent d'ailleurs encore aujourd'hui, pour l'improvisation. C'est-à-dire qu'il organise sur une petite feuille de papier, il note un thème, éventuellement deux, trois autres thèmes qui peuvent être soit des variations sur ce thème principal ou d'autres thèmes. Il va noter peut-être parfois un plan formel ou structurel, et ça lui suffit. Et ensuite, à partir de ces quelques éléments, il va élaborer sa partition assez spontanément, comme s'il improvisait, en utilisant beaucoup justement des formes justement de variation, de développement assez classique, hein, puisqu'il a une formation classique, c'est un sens d'écriture et de contrepoint. Ce qui explique que, par exemple, l'esquisse du Rouet d'Omphale est présente de la manière suivante. On a cinq thèmes qui sont présentés les uns à la suite des autres. Il va en utiliser que trois, finalement. Il va en laisser tomber deux. Puis, on a quelques éléments d'enchaînement d'accords harmoniques qu'on va retrouver. Et à partir de cela, il va élaborer tout simplement sa pièce comme s'il allait tout simplement faire une improvisation au clavier.
Oui, donc ça donne bien une idée de quelle était la recette, ou comment elle était mobilisée. Bonjour Anna Stolknecht.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de Gustave Mahler, d'ailleurs attachée à la bibliothèque Lagrange-Fleuret. Vous avez fait votre thèse sur la 7e symphonie. D'ailleurs, on va en écouter des brins, plus ou moins tissés d'esquisses. Et vous rappelez qu'il y a 30 ans, Hermann Danhauser a fait paraître un essai sur Gustave Mahler qui se voulait si didactique qu'il avait fait une typologie des formes de poétique. Alors il y a la poétique explicite qui est en fait le discours d'accompagnement que le compositeur peut produire sur son œuvre. Il y a la poétique implicite qui est inhérente aux œuvres, la poétique factuelle, c'est celle dont on va parler, dont les esquisses peuvent être la trace, et éventuellement une poétique fictive, c'est-à-dire la mise en scène. Donc vous vous intéressez finalement au conflit qu'il peut y avoir potentiellement entre la poétique explicite, ce que nous raconte le compositeur, et puis ce que nous racontent les esquisses, la poétique factuelle.
Oui. Absolument. Donc c'est l'idée qu'il y a une certaine tendance dans le domaine de la recherche sur les esquisses musicales à privilégier vraiment la poétique factuelle en considérant justement les esquisses comme des documents écrits. Il y a vraiment un peu ce mythe autour du manuscrit qui est, voilà, on a affaire à des documents authentiques écrits de la main du compositeur qui ne peuvent pas nous mentir quelque part. Et donc, il suffit qu'un chercheur avisé avec des outils adéquats examine ces traces écrites pour arriver à reconstituer la chronologie du processus de composition. Et que vis-à-vis de cette poétique factuelle et donc de ces documents écrits, de ces manuscrits, on a les anecdotes, les mots des compositeurs sur leur propre œuvre. Et il y a eu un peu cette tendance dans le domaine des sketch studies, des études d'esquisses, à vraiment confronter ces deux aspects et à faire beaucoup plus confiance en fait aux documents écrits et aux manuscrits et considérer en fait les récits de compositeurs sur leur œuvre ou sur la jeunesse de leur œuvre un peu comme des mythes, des mythes de fiction qui seraient là pour vendre un peu l'œuvre. Voilà, on a beaucoup fait ça à propos de Wagner.
Je constate d'ailleurs qu'on est là sur des répertoires qui sont tout à fait contemporains de l'invention de la police scientifique. C'est-à-dire vraiment une logique d'indice. Où
oui,
surtout, on ne croit pas dans les témoignages des acteurs, mais surtout dans les traces qu'ils laissent partout.
C'est ça. Et voilà, et donc c'est vraiment cette idée, j'ai eu envie, à force de lire des commentaires sur les récits de compositeurs qui doutent très souvent de la véracité, qui, bon, évidemment, avec Wagner, c'est encore plus...
On en parlera tout à l'heure.
Oui, on en parlera tout à l'heure, voilà. On se méfie, en fait, de ces récits,
oui.
Et j'avais envie de les mettre côte à côte et de voir ce que pouvaient nous apprendre ces récits face aux esquisses.
Voilà, sachant que, justement, les esquisses ne racontent pas toujours la même chose,
voilà.
On va pouvoir mettre l'oreille sur deux cas complètement antagonistes. Mm-hmm. Par lequel vous voulez commencer?
Tout à fait. Alors, on peut commencer, justement, ce qui est intéressant quand on... Là, alors, voilà, on s'occupe du rapport entre les esquisses et la version finale de l'œuvre. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que les esquisses nous apprennent sur l'œuvre que la version finale ne nous apprend pas? Et donc, quel est le rapport entre ces deux dimensions? Et est-ce que étudier les esquisses d'une œuvre nous permet de confirmer l'interprétation du produit de l'œuvre finale, ou est-ce qu'au contraire, les esquisses nous apprennent quelque chose de différent? Donc, je vous propose de commencer par un cas où les esquisses confirment, si on veut, quand on regarde les esquisses, on voit quelque chose à l'œuvre qui... Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique d'abord avant de,
comme vous
de
passer...
Alors, je vais peut-être situer quand même l'extrait qu'on va entendre.
Ou alors, on l'écoute, puis on le réécoute.
Alors, on peut faire ça aussi. Alors, écoutons-le. Donc on se trouve ici dans le final de la 7e symphonie. Et dans ce final complètement fou et extrêmement bruyant, où on a un refrain vraiment à la maître chanteur de Wagner qui revient 9 fois, on a dans la 8e fois que le refrain revient, un peu plus tard, on a une série de citations du thème du premier mouvement, donc à l'intérieur du final, à chaque fois transposé un demi-ton plus bas. Donc d'abord, on a le thème du premier mouvement qui apparaît en ré mineur, ensuite en do dièse mineur, en do mineur. Et on a tout d'un coup une interruption de ces citations du premier mouvement, chaque fois transposées un demi-ton plus bas, avec un thème complètement différent, que j'ai appelé le thème cancan, parce que c'est un thème qui fait vraiment clairement allusion au French cancan de Orphée aux Enfers d'Offenbach. Et donc, on a tout d'un coup en si majeur une rupture dans cette série de citations avec ce thème de cancan en si majeur qui arrive et qui n'a un peu rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Et après, la série de citations se poursuit, en fait, avec de nouveau le thème du premier mouvement qui arrive en si bémol. Et donc, on a vraiment, en fait, voilà, un cas d'interruption au niveau du discours musical qui se reflète totalement dans les esquisses. Et ça, c'est vraiment un cas fascinant de correspondance entre ce qu'on trouve dans les esquisses et la manière qu'on peut avoir d'entendre l'œuvre finale. Car si on regarde une page d'un brouillon orchestral pour ce passage-là dans le final, on voit qu'on a toutes les citations du mouvement, du thème du premier mouvement, et qu'au moment où on a cette insertion de ce thème cancan en si majeur, on a simplement un signe en V, comme ça, qui indique sur l'esquisse que quelque chose d'autre va être inséré. Alors, on n'a pas dans les esquisses ce thème cancan précisément à cet endroit-là, mais
on
a le signe d'une insertion.
Donc,
ça m'a fasciné de voir qu'en fait, quand on regarde l'esquisse et qu'on voit ce grand signe en V, c'est insertion, attention, je dois ajouter quelque chose, et qu'on écoute la forme finale de la symphonie. Alors, évidemment, ce final fonctionne vraiment sur le principe d'interruption, et donc il y a beaucoup d'interruptions partout. Mais ça m'a quand même fasciné de voir qu'il y avait cette série d'apparitions du thème du premier mouvement interrompue par ce thème cancan qui reprend après et que ça correspond en fait à ce qu'on voit dans les esquisses.
On peut donc réécouter oui, avec une oreille volontiers. Plus avertie maintenant.
Donc ça, c'est le thème du premier mouvement. Et là, on va avoir le thème cancan qui va arriver. Là. Et là, on a le thème du premier mouvement qui réapparaît. Et on a vraiment plusieurs éléments qui indiquent que c'est une interruption du discours musical, parce qu'on a notamment le maître qui change, la tonalité qui change et le tempo qui change aussi.
Alors que, beaucoup plus tôt, dans la symphonie, dans le premier mouvement, on a un exemple où la version achevée, en quelque sorte, désobéit aux ébauches.
Voilà. Alors ça, c'est un cas assez fascinant aussi. Dans le premier mouvement, dans la partie centrale du développement, juste avant la reprise, juste avant la réexposition en si mineur, on a un passage totalement étonnant qui a frappé les critiques dès la création de l'œuvre de la 7e symphonie en 1908. C'est un passage complètement céleste en si majeur avec un glissando de harpe qui ouvre vraiment comme une vision sur un monde céleste où le temps est suspendu, où la matière sonore contraste fortement avec le côté sombre de ce premier mouvement qui est vraiment une marche funèbre en si mineur, qui est ce premier mouvement qui est assez sombre. On a ce moment lumineux en si majeur, ce moment suspendu un peu entre parenthèses en si majeur, et on a toujours commenté en fait l'analyse, on a fait l'interprétation de ce premier mouvement en disant voilà, tout tend en fait vers ce moment suspendu, c'est vraiment le cœur du mouvement, c'est là que tout tend, et c'est fascinant de voir que dans le brouillon orchestral, mais qui est déjà à un stade avancé en fait dans le premier mouvement, en fait ce moment suspendu, cette parenthèse suspendue en si majeur céleste n'existe pas. Et donc, dans la version, enfin, à un stade assez tardif de composition, Mahler passe directement d'une cadence en si majeur magnifique vers la reprise de l'introduction en si mineur sans passer par ce moment céleste. Et donc, c'est très intéressant de constater que ce moment céleste qu'on peut vraiment interpréter comme étant le cœur du mouvement est arrivé très tard dans le processus de composition, a été inséré très tard en fait. Donc voilà, comme si le cœur n'était ajouté qu'à la fin. Donc ça, c'est la cadence en si majeur. Et voilà le moment qu'il n'y a pas dans le brouillon.
Stolknecht, dans vos explications, comme la confrontation aux esquisses nous permet de trouver des clés d'interprétation qui ne sont pas forcément présentes dans les propos des compositeurs, qui dès lors sont suspects d'être potentiellement auto-mystificateurs. Ce qui ouvre une autre question, à savoir est-ce qu'il y a des compositeurs plus auto-mystificateurs que d'autres ? On y viendra dans un moment, parce qu'avant il y a une question encore plus complexe qui est posée par le musicologue Paolo Del Moline, à savoir est-ce que les points d'achèvement sont les mêmes selon qu'un compositeur compositeur écoute un autre compositeur ou pas. Alors le musicologue Paolo Del Moline ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais j'ai pu l'interroger lors de son dernier passage en France, il y a quelques semaines, pour qu'il nous explique sa réflexion sur Ligeti, un Ligeti penseur de la musique de Nono, Stockhausen ou Boulez, et qui va manier l'idée d'esquisse au regard de sa propre vision de l'histoire récente de la musique. Paolo Del Moline, quand François Delescluze vous sollicite pour vous emparer de cette thématique de l'esquisse, vous n'avez pas fonctionné comme les autres musicologues à aller chercher des esquisses de compositeurs, mais vous avez pris un écrit théorique d'un compositeur, Ligeti, qui en 1960 publie « Métamorphose de la forme musicale ». En quoi est-ce qu'il rencontre la question de l'esquisse, cet écrit ?
Oui, alors merci pour cette question. Alors j'évoquerai trois raisons qui sont à la base de mon choix. Alors premièrement, comme il s'avère souvent dans les écrits de compositeurs, le discours de Ligeti dans les Métamorphoses est soutenu par les références à plusieurs œuvres musicales.
Qui ne sont pas de lui, d'autres œuvres.
De Ligeti lui-même et d'autres auteurs. Ouais. Deuxièmement, comme vous venez de le dire, il s'agit d'un texte de 1960, publié d'un texte théorique, donc publié dans la revue Die Reihe, où les éléments de poétique et d'esthétique musicale en question sont étroitement liés au développement du débat sur les techniques dites sérielles. Et troisièmement, la proximité de Ligeti au compositeur convoqué dans son texte implique une autre proximité, à savoir celle du propos théorique de Métamorphose aux déclarations faites à Ligeti par ses collègues à propos de leur propre processus compositionnel.
Ses collègues, c'est-à-dire Stockhausen et Nono, essentiellement.
Stockhausen, Nono et Boulez. Mais Ligeti, concernant les œuvres dont il est question dans la première partie de Métamorphose, fonde son discours sur son propre article consacré aux structures 1-1 de Pierre Boulez et sur les déclarations qu'il a pu retenir, entendre de Stockhausen, de Nono et de Michael Koenig.
Et alors, quand il fait ce travail sur les compositeurs qui lui sont proches, est-ce que Ligeti va transformer, on pourrait dire, certaines œuvres qui seraient peut-être mi-achevées à ses yeux des autres compositeurs en étapes de travail ? C'est-à-dire, est-ce qu'il revisite le point d'achèvement des œuvres dont il parle ?
Alors, il est évident depuis longtemps que les exemples de la première partie de Métamorphose font défiler les œuvres d'autrui en tant que dernières étapes d'un travail collectif au sein de la trajectoire historique du langage musical occidental. À son dernier stade, ce travail impliquerait ou comporterait la destruction du pouvoir de la série des auteurs en tant que hiérarchie. Et sa suite logique, nécessaire, l'unique pertinente se trouverait, selon Ligeti, dans une poétique telle la sienne, objectivée dans apparition et atmosphère. Par rapport à cette orientation du discours, la référence à une œuvre achevée, mi-achevée, ou encore à une ébauche préparatoire abandonnée, ne faisait pas de différence.
Mais comment est-ce que la critique des esquisses alors intervient dans le discours des compositeurs, puisque c'est l'endroit où Ligeti va être intéressé par ce qu'ils disent alors ?
Tout à fait. Alors, les conversations et les correspondances sur lesquelles s'appuie le discours de Ligeti offraient à leur tour une réflexion menée par les locuteurs, donc Stockhausen, Nono en l'occurrence, sur leur propre processus de composition alors qu'ils étaient en cours ou déjà achevés. Par conséquent, la reconstitution des processus à partir des documents des esquisses représente pour nous une sorte d'infrastructure épistémologique pour la compréhension et l'évaluation de l'écart qui peut se creuser, d'une part entre cette même reconstitution et le discours autorial, en l'occurrence le discours de Stockhausen et de Nono, et d'autre part entre ce discours oratorial et celui allographe proposé par Ligeti dans sa reformulation de la pensée de ses collègues.
Parce que sa reformulation agit finalement sur l'ordre des étapes de l'œuvre, on disait tout à l'heure, mi-achevée à l'œuvre achevée. Donc, ouais.
Tout à fait.
Les œuvres dont il est question de Stockhausen, c'est Gruppen et de Nono, c'est Cori di Dinone.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut dire alors que Ligeti souhaite renvoyer les techniques sérielles à un statut d'ébauche préparatoire?
Alors, du point de vue philologique et génétique, les techniques compositionnelles sont les moyens que se donnent les poétiques musicales pour réaliser des objectifs esthétiques plus ou moins précis. Et les techniques sérielles ne font pas exception à cela, bien sûr, au contraire. En tant que telles, les techniques sérielles se manifestent en premier lieu et tant dans les esquisses et les ébauches de compositeurs. Le rapport entre les œuvres achevées et la partition des techniques qui ont contribué à les engendrer n'est souvent pas immédiat. Et donc, si vous avez eu cette impression, tout à fait légitime, savoir l'impression du souhait liguetien de renvoyer la technique au statut d'ébauche préparatoire, cela relève probablement d'une caractéristique des écrits des compositeurs des années 50. En effet, dans ces écrits, la relation technique-œuvre est souvent présentée comme immédiate, alors que ne l'est pas, du moins pour nous, ce qui demande bien sûr un travail de documentation et de compréhension, un travail herméneutique sur les discours et les débats de compositeurs.
Ah oui, c'est pourquoi on peut avoir l'impression rétrospective que la préparation est plus rigoureusement sérielle que ne l'est l'œuvre à l'arrivée. Et alors, est-ce que une lassitude devant ces débats de hauteur qui porteraient les Ligeti à relativiser leurs apports pour venir s'intéresser à d'autres dimensions et donc viser peut-être des critères d'achèvement qui seraient plus multiparamètres que simplement de l'ordre du sérialisme?
Alors, rappelons que l'objectif implicite de la première partie des métamorphoses de la forme musicale est celui de légitimer la poétique de Ligeti, de ses œuvres récentes, dans son milieu, donc une poétique de composition par bande sonore. Pour atteindre cet objectif, Ligeti veut démontrer que les œuvres récentes manifestent une insensibilité aux intervalles. Il emploie pour cela l'expression rare d'indifférence, la même qu'avait choisi Adorno à propos de l'équivalence de la dimension verticale et horizontale chez les Viennois. Or, cette indifférence aux intervalles, cette insensibilité aux distances entre les hauteurs d'une série, représenterait tantôt une conséquence involontaire de la sérialité intégrale, ce qui, selon Ligeti, sera le cas de la structure 1A de Pierre Boulez, tantôt une prémisse admise par d'autres compositeurs, ce qui sera le cas à l'opposé de Cori di Dinone et Pier Luigi Nono. Donc, ces deux pièces constituent deux cas de figure représentatifs. Cette évidence, toutefois, n'est qu'une apparence médiée, d'une part par l'analyse proposée par Ligeti lui-même de la structure 1A, mais qui était tout à fait inadéquate à son objet. D'autre part, l'absence prétendue d'une série de hauteurs dans les Cori di Dinone, mais je dirais l'absence en général de série de hauteurs dans n'importe quelle œuvre sérielle, n'implique en aucun cas une indifférence ou insensibilité aux intervalles. Et donc, pour conclure, ce qui est en jeu dans les pièces en question, donc de structure 1A, mais Gruppen et aussi Cori di Dinone, est plutôt une variation constante des possibilités perceptives des structures intervalles entre les deux limites, les deux extrêmes de la saturation d'une part et de la raréfaction de la texture d'autre part.
Alors, on pourrait presque en conclure qu'on ne finira jamais de savoir quel est le point d'achèvement de telle ou telle œuvre.
Exactement.
Thank you.
un fragment de Corydie, Didone de Luigi Nono par l'ensemble vocal de la radio de Stuttgart dirigé par Rupert Hubert. François Delécluse, vous pensez quoi de cette phrase de Paolo Delmoline ? La reconstitution des processus à partir de documents des esquisses représente une sorte d'infrastructure épistémologique pour la compréhension et l'évaluation de l'écart qui peut se creuser entre cette même reconstitution et le discours auctorial.
Alors, ce qu'il me semble vraiment intéressant, au-delà du cas particulier de l'étude fascinante que propose Paolo Delmoline, c'est, disons, le discours plus ou moins conscient que les compositeurs peuvent porter sur leur propre processus créateur, avec, eh bien, disons, les nuances qu'on a pu déjà y apporter avec ce qu'en a dit Anna Schalknecht. Et il me semble que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a vraiment différents types de discours autorial, puisque on voit que quelqu'un comme Claude Debussy eh bien, va parler très différemment de son propre processus créateur en fonction des personnes auxquelles il s'adresse. Quand il parle à son éditeur, par exemple, à Jacques Durand, eh bien, il lui rappelle qu'il n'a pas trouvé cette musique-là en écoutant le bruit des galets remués par la mer. Voilà, c'est l'expression qu'il utilise. Et en revanche, il va affirmer dans un discours public lors d'interviews, eh bien, qu'au contraire, la musique qui l'intéresse, la musique qu'il compose, il la compose selon les conseils que lui donnent le vent et la mer, et le bruit de la mer. Donc il y a vraiment un écart très important, qui est très frappant avec ces deux images, eh bien, entre ce qu'il dit en public et ce qu'il va dire aux personnes plus autorisées, donc en fonction déjà des types d'interlocuteurs.
Ça voudrait dire qu'il est insincère dans les deux cas ?
Non, disons qu'il adapte son discours et qu'il cherche dans tous les cas à ne pas dire exactement ce qui se passe, puisque lui, c'est quelqu'un qui est attaché au mystère de la composition. C'est quelque chose qu'il cultive. Il le dit bien, hein, il ne faut pas ouvrir le ventre des pantins pour voir la façon dont la musique fonctionne comme une curieuse montre, dit-il. Eh bien non, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, donc il va cacher. Et pourtant, dans sa correspondance notamment, on voit bien à quel point eh bien, il va porter un discours assez conscient sur la façon dont lui-même compose, et notamment avec ses amis, ou alors avec le rare élève en composition qu'il a eu, Raoul Bardac, où il lui donne un certain nombre de conseils, et où il fait des remarques tout à fait saisissantes, parfois sur son propre processus créateur, et disons, face à ses propres indécisions aussi.
Anna Schalknecht, puisque l'écart est consommé entre le mythe, donc les déclarations des compositeurs, et la réalité, ce qu'on trouve sur les partitions, est-ce qu'on pourrait dire que Mahler est plus inspiré par Wagner dans le mythe que dans la réalité musicale ?
Alors, non, je pense pas. Je pense que...
Pourtant, il est inspiré dans le mythe, hein, vous le dites.
Alors, je ne sais pas. Je pense que clairement, Wagner... c'est vrai, elle présente une certaine forme, a offert des modèles de mythes d'inspiration, qui a sans doute une influence sur les compositeurs plus tardifs, mais clairement, je pense que l'influence de Wagner sur Mahler est beaucoup plus importante au niveau esthétique et musical qu'au niveau du
discours,
du mythe de création. Voilà. Et clairement...
Parce qu'il y a quand même un rapport entre les deux.
Oui, il y a tout à fait un rapport. Alors, il y a plusieurs mythes de création chez Mahler, il y en a plusieurs chez Wagner. Mais ce qui m'a vraiment frappé, si on compare ce que raconte Mahler sur la composition de la septième et ce que raconte Wagner sur la composition de la tétralogie, c'est qu'on a vraiment des similitudes au niveau de l'élément de l'eau aussi, où on a un Mahler qui nous raconte qu'il était en train de ramer sur un bateau sur l'eau et qu'à ce moment-là, il a eu l'idée du rythme du début de la 7e symphonie. Et Wagner nous raconte qu'il était en train de faire sa sieste sur son canapé et qu'à ce moment-là, il a eu un rêve aqueux dans lequel tout d'un coup, il était enveloppé par un accord de mi bémol majeur et que c'est de là qu'est sortie toute la tétralogie. Et ce qui m'a frappé, c'était vraiment les similitudes entre ces deux mythes où on part d'un chaos et d'un néant et d'un rien immobile où rien ne se passe qui peut être là symbolisé par cet élément de l'eau, et que tout d'un coup on a un espèce de processus comme de fertilisation entre l'homme et la nature une espèce d'étincelle, en fait, où on a dans le cas de Mahler, un rythme qui émerge, dans le cas de Wagner, une harmonie, enfin un accord, en fait, pas une harmonie, un accord. Et qu'à partir de cet élément qui a été tout d'un coup divisé du chaos primordial, on a une œuvre qui peut naître de ce petit élément de départ. Donc ça m'a frappé dans ce cas de figure précis.
Oui, il y a quand même une vraie homologie de la convocation de l'imaginaire, quoi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Fabien Guillou, dans le cas de Camille Saint-Saëns, vous faites une différence avec, par exemple, Jules Massenet dans l'utilisation de leurs feuilles détachées, c'est-à-dire que leur brouillon, quand ils sont sur des petites fiches vraiment séparées de tout carnet et ainsi de suite, n'arrivent pas toujours à être des matériaux volants dans les œuvres, n'aboutissent pas au même endroit sur les partitions.
C'est-à-dire que je ne pense pas que Massenet et Saint-Saëns ont le même rapport à leurs esquisses et leurs brouillons, même si on a très très peu d'esquisses conservées et de brouillons pour Massenet, qui avait tendance à les détruire. On a des brouillons d'orchestration, mais assez peu. On a uniquement le brouillon complet de Thaïs, qui a été offert à Charles Malherbe. C'est vraiment le seul exemple vraiment... complet que nous avons. Massenet avait tendance à utiliser ces esquisses sous forme de petites fiches volantes qu'il organisait et classait en fonction de l'évolution de sa pièce, un peu comme une espèce de, je sais pas comment dire, de jeu de construction. On pouvait déplacer un feuillet en le déplaçant de quelques pages, etc., pour arriver à construire un petit peu le discours.
Ça en dit long sur son rapport méthodique quand même,
oui,
à l'écriture
je
musicale.
Je pense que Massenet est beaucoup plus méthodique que Saint-Saëns, qui est plus dans le jaillissement un peu spontané de, on note comme ça vient, quoi, pour parler un petit peu de manière un petit peu vulgaire. Saint-Saëns, au contraire, il est beaucoup moins méthodique dans le sens, je pense aussi parce que c'est aussi lié à la vie de Saint-Saëns. Il est toujours en déplacement, donc il compose dans le train, dans l'avion, dans le train, sur le bateau. Il aurait pu. Je pense qu'il aurait aimé d'ailleurs, mais sur le bateau, il peut très bien composer sur une note de restaurant à l'hôtel. Que dans un petit carnet qu'il a pu acheter parce qu'il sait qu'il va partir pendant plusieurs mois. Et je pense que c'est moins organisé, moins structuré. Est-ce qu'il y a un rapport après entre l'organisation matérielle et la constitution d'une œuvre ? Je ne saurais pas le dire, en fait.
Parce que Saint-Saëns avait quand même apparemment un rapport très réglé à son rythme de travail, jamais plus de 3 heures, avec apparemment une haute conscience du ratio entre le nombre d'heures et le rendement musical qu'il en tirait.
Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, Saint-Saëns ne fait pas que composer. Il passe son temps à jouer, donc il passe son temps à faire répéter, à avoir des réunions pour des concerts avec des impresarios, etc. Il passe énormément de temps à écrire des lettres. On a une correspondance absolument volumineuse. Et en général, il travaille plutôt le matin et il sait qu'il a un temps imparti qui lui est plus ou moins consacré pour faire ce genre de travail. Parce que c'est un travail laborieux, dit-il. Autant l'orchestration, il fait ça avec grand plaisir et sans vraiment de problème, mais il a besoin de revenir constamment sur ses œuvres. D'ailleurs, quand on regarde ses brouillons, plus que les esquisses, mais vraiment les brouillons, où il retravaille sur des détails, notamment sur des éléments peut-être plus contrapuntiques. Il y a une densité d'écriture, de reprise qui est très importante. Un petit peu contraire à l'idée un petit peu de légèreté qu'on peut avoir un peu du compositeur qui compose avec facilité et un petit peu comme ça au kilomètre.
Comme un premier fait des pommes, en fait,
voilà,
justement.
Comme un premier fait des pommes.
Il fait des brouillons à l'entrée
des
pommes,
justement. Ouais. Exactement.
Alors, ça veut dire qu'il y a des esquisses d'esquisses, François Delescluze, pour terminer. Dans le cas de Debussy, il y a des bouts de papier. Alors, les bouts de papier, apparemment, ne sont pas encore exactement des esquisses, puisque vous refusez à Emma Debussy de les appeler des pensées musicales.
Ah oui, dans cette typologie des différents documents utilisés par Debussy, c'est vrai qu'il y en a un qui est assez intéressant, qui sont les mémorandums. Hein. On peut dire, si pour les situer un petit peu dans les types de documents que va produire Debussy, qu'il y a d'abord l'ébauche continue, dont on a parlé tout à l'heure pour le prélude de la prime d'un faune, et qui permet de montrer la manière dont un thème va être transformé, par exemple, à partir d'un patron, ou la façon dont un élément de développement va être supprimé. Mais, eh bien, il y a d'autres types de documents. Il y a ensuite la mise au net qu'il va donner au graveur et qui, là, pour le coup, est un document vraiment calligraphié. Hein. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pour Saint-Saëns. Et chez Debussy, en effet, c'est vraiment extrêmement soigné. Mais il y a aussi des documents beaucoup plus, disons, fragmentaires qu'on trouve parfois dans des carnets d'esquisses ou bien qu'on trouve sur des bouts de papier, en effet, qui ont été très largement supprimés. Hein. Il n'en reste quasiment pas, hormis eh bien, un exemple particulièrement frappant, puisque il a été, en fait, il s'agit d'un sauf-conduit qu'on a délivré à Debussy et sa famille pour pouvoir se rendre à Angers pendant la Première Guerre mondiale, au moment où, face à l'offensive allemande, eh bien, de très nombreux Parisiens vont fuir la capitale. Eh bien, ce document est couvert d'esquisses musicales. Donc, ce qui est assez fascinant avec ce document, c'est qu'il traduit une forme d'urgence de la notation musicale. On voit vraiment que c'est un morceau de papier qui a été plié soigneusement et sur lequel, néanmoins, sont notés de manière très spontanée et très vive des idées musicales. Alors, sur ce type de document, eh bien, on trouve des idées qui sont finalement qui sont notées là parce qu'on a besoin de les retenir, parce qu'il a besoin de retenir son, vraiment pour cela, des mémorandums. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que ces idées musicales, justement, sont extrêmement concrètes. Ici, on est assez loin du mythe de création, pour le coup, puisqu'il s'agit vraiment de, eh bien, à quoi a pensé le compositeur en premier et pour élaborer une œuvre. Et là, on peut faire une typologie, en réalité, des types de première idée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant avec ce document, ce seul document restant quasiment, eh bien, du travail de Debussy sur ses débuts d'œuvre. Et voilà, sur le document que j'analyse dans l'ouvrage, on voit notamment, eh bien, une idée musicale pour les 12 études, des 12 études. Là, il s'agit vraiment des premières mesures de la pièce, où on a vraiment une idée qui sera développée ensuite. Il va rajouter certaines mesures, il va réagencer la manière dont il développe cette idée musicale initialement. Mais on a aussi un autre type d'idée musicale tout à fait fascinant qui concerne le final de la sonate pour violoncelle et piano. Et là, ce qui est assez frappant, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un début. Hein. On a souvent à l'esprit que quand il s'agit d'une idée musicale, il s'agit du début d'une œuvre, eh bien, qui va
c'est
se
un développer. Début d'idée, donc c'est une idée de début.
Voilà, mais pas du tout. Là, il s'agit, en fait, la première idée notée pour ce final de la sonate pour violoncelle et piano, il s'agit des mesures 45 à 48. Donc, à quoi ça correspond? Ça correspond, en fait, à un point culminant. C'est-à-dire que la composition, au lieu de se dérouler à partir de, elle se déroule jusqu'à. Donc il s'agit de savoir comment, par des outils compositionnels, arriver jusqu'à ce point culminant.
Eh bien, on va forcément donc se quitter avec un extrait de ce final de la sonate pour violoncelle et piano par Maurice Gendreau au violoncelle et Jean Français au piano. Merci beaucoup, François de Lécluse. Merci, Fabien Guillou. Merci, Anna Stolopnecht. Et je précise donc que toutes vos réflexions peuvent être lues dans le livre collectif que vous avez dirigé, Esquisse musicale, paru chez Brepol.